L'accueil est bruyant. Il y a des cris. Il y a des chants au rythme du djembé, un djembé un peu endiablé. Il y a des dizaines de mains tendues, des centaines de paires d'yeux qui sont là, fixés sur moi. Et on essaye de se frayer un passage dans cette foule pour s'asseoir sur une petite terrasse aménagée. Et là, dans tout ce brouhaha, il y a quelques présentations de ceux qui sont là avec moi. Et puis un jeune homme se lève, environ 25 ans, et il a un mot de bienvenue. Il lit son texte, dans un bon français, parfois un peu hésitant. Et il semble très fier de sa performance, mais quelque part, son regard est vide. Il n'y a pas vraiment de sourire et en lisant son texte, il regarde un peu ailleurs. Près de lui se trouve le joueur de djembé, qui est un peu plus excité. Et en baissant les yeux, je remarque qu'il a des menottes aux chevilles. C'est sans doute la visite qui m'a le plus marqué lors de ma dernière mission au Congo, dans le Kivu. C'est la première fois que je visitais un centre qui accueille des femmes, des hommes, des jeunes qui souffrent de troubles psychologiques. Un centre psychiatrique, une maison. Quelques minutes auparavant, j'avais rencontré les membres d'une association de personnes victimes de violences sexuelles. Elle m'avait expliqué comment le projet, soutenu par Solidarité Protestante, les aide à retrouver un peu de dignité après leur terrible expérience. La présidente de l'association m'avait expliqué que certaines femmes, suite à leur viol, avaient développé des troubles psychologiques et elle m'avait invité à visiter ce centre. J'ai visité plusieurs centres, des associations de personnes qui ont été victimes du sida, victimes de violences diverses. J'ai visité des centres d'écoute dans des écoles, dont une école dans un centre chaud de Goma. Et toutes ces rencontres ne laissent vraiment pas indifférents. Ces rencontres, elles interpellent, elles perturbent, elles choquent parfois. Les émotions peuvent être très fortes. Tant de souffrances, tant de rejets, tant de désespoir, tant de personnes dont la dignité a été bafouée et parfois complètement nié. Et pourtant aussi, tant de joie, tant de chants, tant de danse, tant de reconnaissance pour le peu qu'elles ont reçu au travers du projet de Solidarité Protestante. Et puis aussi, je remarque tout le dévouement, l'engagement, les gestes porteurs d'espoir par tous ceux qui travaillent dans le projet, les conseillères, les aumôniers, les responsables locaux, etc. En cette période de l'Avent, nous nous préparons à célébrer Noël. Nous nous préparons à célébrer la naissance de Jésus, le cadeau de Dieu pour l'humanité, l'espoir de délivrance pour le peuple d'Israël. C'est le Messie tant attendu, le Sauveur du monde. Pourtant, l'histoire n'a pas très bien commencé. Nous avons lu l'histoire de deux femmes qui, elles aussi, avaient vécu la honte, l'humiliation, et avaient perdu un peu de leur dignité quand même. Une jeune fille se retrouve enceinte et son fiancé prétend que l'enfant n'est pas de lui. C'est une vraie catastrophe pour les parents. Surtout à l'époque, le fiancé veut rompre. La jeune fille est enceinte l'enfant n'est pas de moi. Tout le monde se sent humilié, frustré. Le fiancé d'abord, qui quand même honnête veut rompre secrètement, et puis la famille de la jeune fille. Mais enfin, comment c'est possible? La jeune Marie a beau raconter qu'un ange l'a visitée et qu'elle est enceinte par l'Esprit Saint, les voisins ne sont pas vraiment convaincus. Et ça commence un peu à jaser. On pointe Marie du doigt en ricanant. Les histoires commencent à circuler dans le village. Bref, peut-être qu'il vaut mieux que Marie s'en aille un peu quelque temps, qu'elle prenne un peu des vacances. Et le texte de Luc que nous avons lu nous dit que c'est en hâte que Marie part dans une ville de la montagne, là où habite une parente plus âgée, qui, il faut bien le dire, elle aussi est enceinte, dans des circonstances quand même un petit peu bizarres. C'est donc une Marie un peu honteuse, humiliée, qui s'en va à la rencontre d'Élisabeth, sa parente, en espérant que toute cette histoire va se régler. Mais nous avons lu que cette histoire Cette rencontre va transformer complètement la situation. Élisabeth aussi, elle a connu la honte et l'humiliation à cause de sa stérilité. Peut-être que c'est celle de son mari, mais enfin bon, on préfère dire que c'est la femme qui est stérile. Ils n'ont pas d'enfant. C'est une honte dans un couple ne pas avoir d'enfant. Ils sont regardés, mais quel péché ont-ils commis pour ne pas avoir d'enfant? Et maintenant, les voilà trop âgés. Et pourtant, un ange annonce à Zacharie que Élisabeth va être enceinte. Elle est quand même gênée. Elle se cache pendant 5 mois, juste pour être certaine qu'elle est vraiment enceinte et surtout que le bébé arrivera à son terme. Ce serait vraiment une grande honte de faire une fausse couche juste là maintenant. Ces deux femmes, lorsqu'elles se rencontrent, elles se comprennent tout de suite. Elles se sentent proches tout de suite dans leur humiliation et leur honte. Mais pour elles, il n'y a aucun doute. L'enfant qu'elles portent chacune est le fruit d'une intervention divine. Ces deux enfants sont appelés à un destin exceptionnel. Et lorsqu'elles prennent toutes les deux conscience qu'elles sont au bénéfice d'une intervention de Dieu, à ce moment-là, elles éclatent en louanges. Leur honte est effacée, leur humiliation a disparu. Elles ont été choisies par Dieu. Leur dignité de femme, créée à l'image de Dieu, est maintenant restaurée. Et pendant 3 mois, elles partagent leurs rêves, elles partagent leur joie de cette restauration. Il y a quelques années, Solidarité Protestante a choisi de mettre la dignité humaine au cœur, au centre de ses actions. Et je me réjouis que ce thème soit toujours à l'ordre du jour aujourd'hui. Tout homme, toute femme a droit à un respect inconditionnel comme être humain. Quel que soit son statut social, quelle que soit son origine, sa condition physique, son orientation sexuelle, sa religion, sa couleur, etc. Tout homme, toute femme a droit à un respect inconditionnel. Cela ne signifie pas que toutes ses actions soient respectables et dignes d'approbation, mais la personne, elle, doit être respectée comme telle. Restaurer, préserver la dignité, on en parle beaucoup, surtout dans le domaine de la bioéthique. Lorsqu'on parle de l'euthanasie, de l'avortement, de l'utilisation des cellules souches, des soins palliatifs, le clonage, etc. Ah, il faut préserver la dignité de l'être humain. Mais ce n'est pas si vieux que ça, officiellement. Le monde a pris conscience de la nécessité du respect de la dignité humaine après les atrocités commises lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. Et l'article 1er dit ceci: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît que la dignité est inhérente à tous les membres de la famille humaine. Ce n'est pas un droit de naissance, ce n'est pas un droit dû à une position sociale, elle n'a rien à voir avec ceux qu'on appelle les dignitaires, on ne peut pas l'acquérir par ses mérites ou par ses exploits. Tout être humain a droit au respect de sa dignité, tout simplement parce qu'il est humain. Le philosophe Paul Ricoeur disait « Quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain ». En tant que chrétiens, nous ne pouvons qu'applaudir. La dignité humaine nous semble être au cœur de la Bible, au cœur de l'Évangile, au cœur du christianisme. Et pourtant, le thème n'apparaît pas directement dans la Bible. On dirait presque qu'il en a été exclu. Dans la Bible, la dignité humaine est liée à la création de l'être humain, à l'image de Dieu. Cette dignité est masquée par le péché, mais elle est restaurée grâce au salut apporté par le Christ. Elle est déjà effective, mais elle ne se révélera dans toute sa mesure qu'avec l'affiliation définitive dans le Fils à la fin des temps. Alors que les droits de l'homme aient été édictés sous son influence, ce n'est pas un hasard. Pourtant, la dignité ne fait pas l'objet de longs développements en soi, ni dans la Bible, ni dans la liturgie, ni dans les textes officiels de l'Église. On dirait qu'elle est un peu expulsée du texte, parce qu'en fait, elle en constitue le prétexte. Elle est un autre nom de la filialité divine. Elle est don du Créateur, appelant sa créature humaine à vivre conformément à l'image de Dieu, comme fils, comme fille du Père, par l'Esprit. Nous l'avons lu dans le premier chapitre de la Genèse. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'être humain est doté d'une dignité inaliénable. Seul, il ressemble au Créateur. Seul, il est modelé par la main divine. Seul, il bénéficie de l'insufflation dans ses narines de l'haleine de vie. Seul, il reçoit l'ordre de maîtriser la création. Ainsi, notre dignité humaine nous vient directement du Créateur. Nous l'avons de par notre naissance. Nous ne devons pas nous battre pour l'obtenir. Elle est là, en nous. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas toujours conscients. Lorsqu'Adam et Ève vivaient pleinement de la source de vie, en pleine communion avec leur Créateur, leur dignité était complète. Ils n'en avaient même pas conscience. Elle était là. Elle se résume dans ce petit verset du chapitre 2 de la Genèse. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais après leur choix d'écouter la voix du serpent et de désobéir à l'ordre de leur Créateur, que font-ils ? Ils se cachent, ils ont peur, ils ont honte parce qu'ils sont nus. Ils se sentent coupables d'avoir désobéi, gênés de devoir soudain faire face à leur Dieu. Cette belle dignité humaine donnée par Dieu est subitement ternie. On dirait que tout d'une fois, elle est enfouie sous cette honte et cette culpabilité. L'image de Dieu qui a été placée en eux, elle est maintenant voilée. Et la référence pour la dignité n'est plus cette image de Dieu qui fait partie de leur être, mais la référence pour la dignité, c'est l'autre, c'est celui qui est là en face de moi. Et pour tenter de garder un peu de la dignité, Adam accuse Ève. C'est elle qui m'a trompé. C'est elle qui est indigne. C'est elle qui est coupable. Ève, elle accuse le serpent. C'est lui qui... On connaît l'histoire. Et je pense que tous nous faisons un peu la même chose. On essaie toujours d'accuser l'autre pour se disculpuer et pour garder un peu sa propre dignité. Et malheureusement, la série va continuer et on retrouve ces histoires tout au long de la Bible. Caïn et Abel. Caïn jaloux de son frère Abel. Et pour retrouver sa dignité, il faut éliminer l'autre. Sarah et Agar, Joseph et ses frères, l'esclavage en Égypte, etc. Et tout continue, toute l'histoire humaine est une succession, une escalade de violence, une escalade d'humiliation, de mépris de l'autre, de lutte de pouvoir pour briser la dignité de l'autre, afin d'essayer de se sentir un peu mieux, de se sentir plus fort, pour forcer le respect et essayer d'avoir un semblant de dignité. Si nous réfléchissons à notre propre vie, nous ne devons pas réfléchir bien longtemps pour identifier les humiliations que nous-mêmes nous avons subies tout au long de notre vie. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit face à l'administration, quand on cherche à avoir un papier, face à la justice, et malheureusement même parfois dans l'Église. En y réfléchissant un peu plus, il ne serait pas non plus trop difficile d'identifier les situations où nous-mêmes, nous avons porté atteinte à la dignité de notre prochain. On l'a traité de bon à rien, d'imbécile, qu'il ne sera jamais rien faire de bon. On s'est mis en avant pour rabaisser l'autre. On l'a ignoré comme s'il n'existait pas. On lui a coupé la parole quand il essayait de s'exprimer. Peut-être même pire, on l'a trahi, on l'a volé, on l'a blessé. La liste peut être longue. Nous devons bien reconnaître qu'en chacun de nous, il y a ce mélange de victimes, mais aussi de bourreaux. Et nous sommes tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt l'autre. Et pourtant, dans ce méli-mélo de blessures, de souffrances, de violences, de larmes, de honte et d'injustice, il y a toujours eu des femmes, des hommes qui se sont, eux, indignés, qui ont dénoncé les atteintes à la dignité, qui se sont battus pour que des lois protègent la dignité, même avec leurs limites. Et nous pensons à des hommes comme Nelson Mandela qui a vécu tant d'années en prison pour se battre, pour lutter contre l'apartheid. Nous pensons à Martin Luther King qui lui aussi s'est battu pour éliminer la ségrégation raciale, à Gandhi qui s'est battu pour éliminer les castes en Inde, etc., etc. Et pour chacun de nous, nous aussi qui avons vécu ces souffrances et ces humiliations, nous nous sommes battus nous aussi pour vivre ou pour survivre. Et si nous sommes attentifs, nous nous souviendrons de tous les signes de vie qui nous ont été donnés et qui nous ont permis de continuer à vivre malgré tout. Parfois c'était une parole de réconfort, un geste d'amitié, peut-être un sourire, un regard bienveillant, mais peut-être aussi dans la nature, un coucher de soleil, une belle fleur, un merveilleux paysage, une belle musique, autant de petits clins d'œil de la part de Dieu, pour nous rappeler que lui est toujours là, toujours présent. Au fond de nous, au plus profond de nous-mêmes, nous savons qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Nous savons qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, quelqu'un qui porte sur nous un regard différent, un regard plein de bienveillance et plein d'amour. Et c'est là pour moi que l'Évangile, le message de l'Évangile montre toute sa force. Les prophéties du Premier Testament, comme celle d'Ésaïe que nous venons de lire, les cantiques de Marie, d'Élisabeth et de Zacharie, annoncent déjà le redressement des humiliés. Dans Ésaïe, il nous est dit, il montre son amour aux humiliés. Marie, dans son chant, dit, il a posé son regard sur l'humiliation de sa servante. Et Élisabeth pouvait dire, il a bien voulu me délivrer de ce qui me causait la honte devant tout le monde. Tout le ministère de Jésus vise à rendre à chaque femme, à chaque homme, sa pleine dignité d'être humain, créé à l'image de Dieu, animé du souffle de vie et appelé à gérer la création. Dès le début de son ministère, Jésus annonce la venue du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Il annonce son programme dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus, lui, va aller vers les exclus. Il va aller vers les lépreux, les aveugles, les boiteux, les démoniaques, tous ceux qui sont différents, tous ceux qui ne sont pas comme les autres, ceux qui ont perdu leur dignité humaine, ceux qui sont rejetés, ceux qui vivent au bord du chemin, qui vivent en marge de la société. C'est vers eux que Jésus se tourne avec un message d'espoir. Il va aussi à la rencontre des mal vus, les Samaritains avec qui personne ne voulait parler. Il va vers les prostituées, il va vers la femme adultère, à qui il donne cette parole extraordinaire de restauration, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Et puis cette rencontre avec Zachée, le petit Zachée méprisé par tout le monde parce qu'il était un collabo. Il prenait l'argent, il prenait les taxes et il se servait bien. Zachée se cache dans un arbre et voilà que Jésus s'invite chez lui. En recevant chez lui, Jésus chez lui, il se sent revivre, il se sent redevenir un homme, il est restauré dans sa dignité, et dès que cette dignité est retrouvée, il fait tout lui pour essayer de restaurer la dignité de celles et ceux qu'il a trompés. Il rend le quadruple, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Et Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Chacune de ces personnes, dans sa rencontre avec Jésus, se reconnecte avec l'image de Dieu qui est en elle. Le voile se lève, elle se sent aimée de manière inconditionnelle. Par contre, Jésus va violemment attaquer ceux qui, eux, se croient dignes. Ils se croient dignes par leurs œuvres, ils se croient dignes par leur obéissance à la loi, par leur statut. Et Jésus va attaquer de front les pharisiens, les scribes, tous ceux qui se croient, eux, dignes du royaume de Dieu. Les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi seront la cible de ces attaques pour tenter de leur faire prendre conscience qu'ils se trompent d'échelle de valeur. Mais Jésus n'a pas réussi et il s'est retrouvé sur une croix. Ça continue aujourd'hui, on ne bouscule pas ainsi l'institution. Jésus, dans son message, invite ses interlocuteurs à ne plus regarder Dieu comme un juge prêt à condamner, à jeter en enfer, mais plutôt comme un père à l'image duquel nous avons été créés. Notre Père, mon Père, qui m'a créé très bon, nous l'avons lu aussi dans Genèse 1, très bon, pas parfait. Notre Père, qui a insufflé en nous le souffle de vie, et Jésus pouvait proclamer hautement, « Je suis la lumière de la vie, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » L'Évangile nous invite à changer le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. L'Évangile nous invite à avoir un regard qui découvre l'image et la présence de Dieu en nous, mais aussi chez notre prochain. Cette image de Dieu, parfois, est bien cachée. Elle est cachée sous des couches épaisses de tristesse, de colère, de mépris. Mais elle est là quelque part. Et c'est cette image de Dieu qui rend chaque être humain digne de respect et d'amour. Être témoin du Christ aujourd'hui, c'est peut-être simplement poser un geste d'amitié, un geste d'accueil, un geste de soutien. Peut-être simplement prononcer une parole d'encouragement, une parole d'appréciation, une parole de grâce. Partager un sourire sincère, poser sa main sur l'épaule de celui qui est en tristesse. Tout geste ou parole qui peuvent redonner confiance, mettre en évidence l'image de Dieu présente en chaque être humain et peut-être contribuer à restaurer la dignité de celle ou de celui qui le reçoit. Jésus lui-même a subi une humiliation extrême. Sa dignité humaine a été complètement bafouée, couronnée d'épines, battue à sang, clouée sur une croix, nue comme un malfaiteur, après un procès tout à fait injuste. Et pourtant, la vie a triomphé. La vie a triomphé. La dignité de Jésus, sa dignité de fils de Dieu n'a pas été atteinte. Et cette dignité de fils et de fille de Dieu, elle est là en chacun, en chacune d'entre nous et en chacun, chacune de notre semblable qui est là en face de nous. Alors ce matin, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à laisser s'épanouir cette dignité en nous-mêmes et chez notre prochain par un regard bienveillant rempli de l'amour de Dieu. Amen.